Sous l'influence des livres, une émission animée par Claude Lacharité et Camille Deslauriers. J'aurai le plaisir d'animer cette émission littéraire à l'antenne de Radio Ville-Marie. Chaque mois, en réalité, nous recevrons un invité qui viendra nous parler de ses parutions, qu'il s'agisse de romans, de poésie, d'essais. Et ensuite, dans notre émission, qui se veut placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité, avec toujours un soupçon de pantagruélisme, c'est-à-dire une certaine gaieté d'esprit confite en mépris des choses fortuites, comme le dit si bien Rabelais, nous aurons une petite capsule d'histoire littéraire. Et enfin, dans un troisième et dernier temps de l'émission, nous nous entretiendrons avec l'invité du mois pour parler des lectures marquantes, les lectures qui ont été phares dans son parcours, aussi bien d'écriture que de lecteur. Alors, pour inaugurer cette émission de belle façon, nous avons le plaisir d'accueillir Martin Robitaille, qui est donc romancier, professeur d'université en littérature. Il a fait paraître en 2008 son premier roman qui s'intitulait « Les déliaisons », pour lequel il a obtenu le prix Ringuet de l'Académie des lettres. Et il a fait paraître plus récemment, en 2012, son deuxième roman qui s'intitule « En chemin, je t'ai perdu ». Alors, bonjour Martin Robitaille.
Bonjour.
Vous avez publié deux romans, je le rappelais en introduction de l'émission. Est-ce que vous pourriez nous dire très brièvement de quoi il s'agit, de quoi ça parle, Les déliaisons et En chemin, je t'ai perdu?
Ah, c'est toujours difficile pour un auteur de résumer ce qu'il a écrit. C'est assez simple, hein? C'est l'histoire d'un jeune homme, début trentaine, qui cherche un sens à sa vie dans un monde sans spiritualité. Un jeune homme mélancolique qui aimerait écrire des livres et qui n'y arrive pas. Et qui va sombrer petit à petit dans une forme de dépression et qui, dans le deuxième opus, va tenter de trouver le bonheur autour de sa famille et de l'écriture. Voilà, très bien. Globalement.
Alors, ce personnage dont vous ne nous avez pas révélé l'identité s'appelle, bien entendu, Raphaël Laliberté.
Oui.
Au tout début des déliaisons, il est professeur de littérature, tiens-tiens, à l'Université du Québec à Rimouski.
Quel hasard.
Curieux hasard. Et au début du deuxième roman, chapitre 2, on apprend qu'il a publié un roman qui s'intitule « Les déliaisons, autres curieux hasards ».
Oui.
Alors, ce Raphaël Laliberté, c'est un personnage tout à fait attachant, un peu iconoclaste, un peu provocateur, qui a des côtés, je dirais, un côté peut-être parfois d'adolescents un peu attardés à certains égards. J'ai envie de vous poser la question que tous les lecteurs, j'imagine, se posent. Est-ce que Raphaël Laliberté, c'est vous?
Mais bien sûr! Et en plus détestable. Non, non, sérieusement, ce ne sont pas des romans d'autofiction, ce ne sont pas des romans autobiographiques, mais certains traits de son psychisme, je dirais, s'apparentent à ce qu'a pu être le mien à l'époque où j'ai écrit ces deux romans-là. Alors, heureusement, notre psychisme évolue, et je ne suis plus dans l'état d'esprit de Raphaël au moment des déliaisons, il y a quoi, 4 ans, 5 ans maintenant? Non, ce n'est pas moi. J'ai une grande part des deux romans est tirée de mon imagination, de mon imaginaire. Et je ne voulais absolument pas faire de l'autofiction, pas du tout.
D'accord. Et d'ailleurs, à la toute fin du roman, vous ajoutez une petite note dans laquelle vous précisez que pour le deuxième roman, vous vous êtes inspiré d'une histoire assez triste, assez tragique, que des amis de vos parents ont malheureusement subi, si j'ose dire, parce qu'il n'y a, oui, pas d'autres termes en l'occurrence. Donc, ça nous montre bien que finalement, il y a toute une part d'imagination, de fiction, justement, dans ce roman.
Oui, ben, la plupart des auteurs, hein, des écrivains, fonctionnent à partir de nœuds inconscients ou semi-conscients, je dirais, d'histoires qu'on leur a racontées ou qui les a marquées. Et ils vont broder autour, ils vont essayer de combler les vides pour tenter de refaire sens autour de ça. Donc, on écrit toujours plus ou moins à partir de soi, c'est évident. Ceci dit, une des grandes joies de l'écriture, c'est de pouvoir justement voler de ses propres ailes en tentant d'imaginer des personnages, des histoires, des choses qui ne sont pas nous.
D'accord. Donc, autrement dit, Raphaël, la liberté, c'est vous, mais dans la mesure où Madame Bovary, c'était Gustave Flaubert,
voilà.
Comme il le disait lui-même si bien.
Voilà.
Alors, maintenant, j'aimerais peut-être vous entendre sur un côté qui, je dirais, donne à votre deuxième roman une qualité assez exceptionnelle. C'est la capacité que vous avez finalement à allier des scènes extrêmement comiques, très drôles. Hein? On rit parfois à gorge déployée en vous lisant.
Ouais, merci.
Et à d'autres moments, au contraire, il y a des scènes extrêmement, je dirais, touchantes, presque tragiques, je pense qu'il faut utiliser le terme, du moins pour la conclusion de votre roman.
Mm-hmm.
On a envie presque de pleurer à chaudes larmes. Mm-hmm. Alors, comment vous vous situez comme écrivain, justement, par rapport à cette alliance du comique et du tragique? C'est quand même pas quelque chose de très facile à maîtriser. On imagine que certains écrivains sont plutôt comiques et très à l'aise dans ce registre, d'autres plus à l'aise dans le registre tragique. Vous, vous arrivez à passer de l'un à l'autre avec un certain naturel. Est-ce que vous avez plus de facilité dans l'un que dans l'autre? Est-ce que pour vous c'est important de combiner les deux?
Oui, c'est une excellente question. Ce qui m'intéresse le plus dans les lettres, en littérature, que ce soit en roman ou en théâtre ou dans les nouvelles, c'est le mélange justement d'humour et de tragique. Est-ce que c'est difficile? C'est toujours difficile d'arriver à faire sortir ces émotions-là de soi. Ça paraît banal à dire. Et pourtant, c'est peut-être effectivement une des choses les plus compliquées à faire. Ce n'est pas compliqué aligner des mots pour essayer de faire des belles phrases. Mmh. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à susciter de l'émotion, tout en travaillant le style. Je pense que l'idéal d'un auteur, c'est d'arriver à faire les deux.
Mm-hmm.
C'est peut-être plus difficile encore d'arriver à émouvoir du côté du tragique que du comique. Je pense que le comique est inné chez certaines personnes. Il y a des gens qui sont nés pour pleurer aussi, mais et faire pleurer, ils sont plus rares.
Mm-hmm.
Et cette combinaison des deux, moi personnellement, c'est ce qui me permet de continuer à écrire.
Très bien. Et puis, peut-être simplement une dernière question. Vous combinez aussi très allègrement les registres de style, les langues. Vous passez du plus recherché au plus vulgaire, au plus familier. Vous mélangez le français québécois, le français hexagonal, le français
oui.
de France. Vous
oui.
mélangez le français et l'anglais.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est important, ça aussi, pour vous? Est-ce que c'est du même ordre que le mélange du comique et du tragique, de la tristesse et de la joie?
Ah oui, c'est extrêmement important. Raphaël est un Québécois, professeur de lettres, ex-professeur de lettres, et il vit dans un Québec où l'oralité est extrêmement présente, et il va s'exiler en France, où là, les registres de langue sont aussi assez importants, et je voulais rendre toute cette réalité-là dans les deux pays.
Très bien. Je vous remercie, Martin Robitaille. Au retour de la pause musicale, je passerai de l'autre côté du micro, si j'ose dire, puisque je répondrai aux questions de ma collègue Camille Deslauriers.
Poursuit notre émission sous l'influence des livres avec un second segment sur l'histoire littéraire. Je vais donc m'entretenir avec Claude Lacharité. Bonjour Claude.
Bonjour Camille.
Alors peut-être qu'on pourrait commencer en tissant un lien entre notre sujet d'aujourd'hui, le roman L'influence d'un livre de Philippe Aubert de Gaspé, et le titre de notre nouvelle émission sous l'influence des livres. Pourquoi avoir choisi ce titre, Claude?
Bien, en fait, l'idée est venue en pensant à la postface que René Grutman a signée dans l'édition de L'influence d'un livre, justement, qu'il a fait paraître chez Boréal Compact.
D'accord.
Et c'est justement, donc, le titre de sa postface, « Écrire sous l'influence des livres ». Et dans cette postface, René Grutman, professeur à l'Université d'Ottawa, nous montre que Philippe Aubert de Gaspé était un grand lecteur, hein, qu'il a passé sa vie littéralement à lire, quoi qu'il fasse, même à cheval, même lorsqu'il se déplaçait en bateau à vapeur, semble-t-il, ses contemporains nous le décrivent comme ayant toujours un livre à la main et étant toujours en train de lire. Or, son premier roman, hein, qui est aussi le premier roman de la littérature québécoise, oui, publié en 1837, justement, est, comment je dirais, rempli de références textuelles, rempli de citations explicites ou implicites à d'autres auteurs, à d'autres livres. Entre autres, ce qui est très frappant, c'est que dans chaque chapitre, au début de chaque chapitre, il y a de courts extraits qui sont cités, hein, ce qu'on appelle, pour utiliser le jargon, des épigraphes. Eh bien, il y en a littéralement partout, et généralement pas une seule épigraphe en tête de chapitre, mais généralement deux, trois, voire quatre. Et ça, c'est sans parler, évidemment, des références à d'autres œuvres littéraires qu'on trouve dans le corps même des chapitres. Il faut dire que c'est un roman extrêmement bref, hein, qui est constitué, si je me souviens bien, d'à peine 14 chapitres. Mm-hmm. Et donc, ça se lit en quelques heures à peine, et c'est d'autant plus frappant de voir à quel point il y a des références dans une œuvre pourtant extrêmement brève. Et effectivement, on voit bien que Philippe Aubert de Gaspé fils, tout jeune qu'il était véritablement, je dirais, un lecteur boulimique, obsédé par la lecture.
Ah ben c'est fascinant. Vice-versa, on pourrait se demander pourquoi ce roman-là s'intitule précisément « L'influence d'un livre ».
Oui, alors en fait, c'est parce que tout simplement, le héros du roman, qui s'appelle Charles Amand, qui est un modeste paysan qui vit à Saint-Jean-Port-Joli, cherche à s'enrichir au moyen d'un livre très influent qui s'appelle « Le Petit Albert » et qui fournit un certain nombre de recettes magiques. Or, dans le roman, Charles Amand essaie du début jusqu'à la fin de s'enrichir en mettant en application ses différentes recettes, hein, ses différentes conjuration. Il essaie, entre autres, de se fabriquer une main de gloire à partir d'un bras de pendu. Main de gloire qui est destinée apparemment à découvrir des trésors, mais dans les faits, évidemment, si vous essayez, enfin, je vous déconseille d'essayer parce que c'est toujours risqué d'utiliser le bras d'un pendu, et les pendus ne courent pas les rues de nos jours. Mais toujours est-il qu'évidemment, Charlemagne ne découvre pas de trésors grâce à sa main de pendu. Mm-hmm. Et au bout du compte, hein, au terme du roman, il s'aperçoit qu'au fond, la plus grande richesse et la seule richesse finalement qui compte, c'est ce qu'on peut découvrir grâce au livre. Hein. Mmh. Et d'une certaine façon, il s'agit là d'un titre extrêmement intéressant, puisque au début, il s'agit de l'influence du petit Albert, mais à la fin, c'est très évident qu'il s'agit du un article indéfini entendu au sens universel, c'est-à-dire c'est l'influence de n'importe quel livre, de tous les livres, hein, qui vont véritablement changer la vie de Charlemagne.
D'accord. On pourrait peut-être oser aussi poser une question qui revient parfois quand on enseigne chez nos étudiants. En quoi cette histoire-là, qui est racontée dans l'influence d'un livre, nous concerne-t-elle encore aujourd'hui?
Oui, alors l'actualité du roman, c'est une question redoutable, hein, parce qu'évidemment, on a toujours envie de dire que tous les romans qu'on aime sont forcément d'actualité, oui. Ne serait-ce que parce qu'on les aime. Oui. Alors, dans le cas de l'influence d'un livre, je dirais que la réponse est peut-être un peu nuancée. C'est qu'il y a un côté, évidemment, très daté dans ce roman-là. Hein. C'est un roman qui exploite, entre autres, l'ambiance un peu sombre des romans gothiques du début du 19e siècle. Aubert de Gaspé fils aime beaucoup les romans du jeune Victor Hugo, comme Anne d'Island et Bugge Jargal. Il essaie de transposer dans son propre roman cette atmosphère un peu de magie noire, cette atmosphère un peu de crime, cette atmosphère un peu sordide. D'accord. Et tout ça, évidemment, est extrêmement daté. Il existe aujourd'hui, évidemment, des romans d'horreur, mais qui sont très, très loin des conventions de ce type de roman gothique. Par contre, là où le roman nous parle toujours, je pense, c'est justement dans la réflexion qu'il nous propose sur la lecture. Hein. Justement, le titre est, de ce point de vue-là, programmatique. Il est question de l'influence d'un livre et plus largement de l'influence des livres. Et en fait, Charlemagne, s'il ne progresse pas sur le plan de l'enrichissement personnel, il va néanmoins progresser considérablement sur le plan de la lecture. Mm-hmm. Au tout début de l'histoire, on nous le présente comme quelqu'un qui lit exclusivement et à répétition un seul et même livre, Le Petit Albert. Et puis, à la fin, on nous apprend qu'il lit toujours Le Petit Albert, mais il a renoncé à faire des conjurations. Ce qui veut donc dire qu'il a renoncé à, je dirais, à mettre en application les effets apparemment magiques de ce petit grimoire. Et en fait, ce qui a été déterminant dans son parcours, ce sont les livres que lui a donné son gendre, futur médecin. Et parmi ces livres-là, le roman nous apprend qu'il y a une vingtaine de manuels des différents arts et métiers et un dictionnaire des secrets de la nature. Alors, tous ces livres existent bel et bien. Il y a bel et bien un livre publié à la fin du 18e siècle qui s'appelle « Le dictionnaire des merveilles de la nature » qui a été publié par un physicien, philosophe des Lumières qui s'appelle Cigaud de Lafont. Et puis, la vingtaine de manuels des différents arts et métiers, ça vraisemblablement désigne vraisemblablement, en fait, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Mmh. Et grâce à cet ensemble de lectures, Charlemagne devient l'homme non plus d'un seul livre, mais d'un ensemble assez important de livres. Et il pratique désormais une lecture critique, une lecture qui fait appel à sa raison. Et il devient donc, du personnage crédule qu'il était au début de l'histoire, mmh. une sorte de personnage très critique à la lumière, à la façon des philosophes des Lumières.
Alors, merci beaucoup, Claude Lacharité. Ça nous donne vraiment le goût de retourner au livre pour trouver tous ces intertextes. Au retour de notre extrait musical, Claude Lacharité s'entretiendra de nouveau avec notre invité d'aujourd'hui, Martin Robitaille.
Alors, nous sommes de retour avec Martin Robitaille qui, cette fois, va nous entretenir des lectures phares, des œuvres marquantes à la fois dans sa vie d'écrivain et dans sa vie de lecteur.
Ça devient sérieux.
En effet. Alors, Martin Robitaille, quand on lit vos romans, on est frappé par une chose hein, qui n'est pas sans faire penser à l'influence d'un livre, à savoir l'omniprésence d'épigraphes en tête de chapitres. C'est manifestement quelque chose qui vous plaît beaucoup,
parce qu'il
n'y a pas un seul chapitre qui n'a pas sa citation. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous choisissez ces citations? Est-ce qu'on pourrait retrouver, si on reprenait chacune des citations en tête de chapitre, les auteurs importants qui vous ont influencé, les œuvres marquantes? J'imagine que la réponse est sans doute un peu nuancée, parce que si je prends l'exemple de la citation qui ouvre le chapitre 8 de votre dernier roman, on a quelque chose d'assez, je dirais, sympathique, de très drôle, mais j'imagine que ce n'est pas une lecture habituelle pour vous puisque c'est le journal du Havre, 28 novembre 1966, et la citation se lit comme suit. « Ce corps auquel il manquait la tête, le bras droit, l'avant-bras gauche et la jambe gauche ne portait pas de blessure apparente.
» Oui, c'est une bonne question. C'est souvent au gré de mes humeurs. Hein. Honnêtement, c'est un procédé que j'ai emprunté à Stendhal, qui l'utilisait déjà dans Le Rouge et le Noir, et qui inventait autant d'épigraphes qu'il en trouvait chez d'illustres prédécesseurs. Souvent, on utilise l'épigraphe pour marquer éthiquement, moralement, ce qui suit. Dans mon cas, je préfère utiliser des épigraphes qui déstabilisent le lecteur. Soit par l'humour, soit par le côté iconoclaste. Et c'est vrai que j'en ai inventé pas mal. Donc ça fait partie des petites joies du métier.
Bon, alors donc les lecteurs se feront un vilain plaisir à essayer de traquer justement les fausses épigraphes et essayer justement de départager les vraies des fausses.
Oui.
Alors donc, ça n'est pas là qu'on va trouver finalement vos auteurs marquants, vos lectures marquantes. J'ai envie donc
de vous poser la
question complémentaire suivante. Quels sont justement les auteurs qui vous ont beaucoup influencé? Et là, je voudrais peut-être que vous vous concentriez sur deux auteurs qui ont influencé votre écriture et qu'on pourrait, nous, comme lecteurs, reconnaître dans votre style, entre autres.
Mon auteur de prédilection, c'est bien sûr Proust, parce que j'ai fait ma thèse sur Proust et qu'il a occupé tout mon temps, toutes mes énergies, tout mon esprit pendant plus de 10 ans. Proust, qui est un monument de la littérature française et mondiale. Ceci dit, j'ai dû m'en détacher pour arriver moi-même à écrire, donc on ne retrouvera pas du tout d'influence de son style chez moi. C'est inimitable, Proust. Et puis, je ne me compare absolument pas à ce géant. Ceci dit, il occupe une place primordiale dans ma vie, puisque c'est lui qui m'a donné le goût d'être en littérature et d'écrire aussi. Et c'est une œuvre fondamentale qui n'a rien à voir avec l'image qu'on se fait de Proust encore aujourd'hui, c'est-à-dire un dandy du 19e siècle qui a écrit des choses sur la mémoire et qui était un snob. Proust, ce n'est pas ça du tout. C'est une œuvre extrêmement profonde qui a été écrite parallèlement aux grandes découvertes de la psychanalyse. Je m'arrête là parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Un deuxième auteur, très très rapidement, Salinger, je ne sais jamais comment on prononce, l'auteur de L'attrape-cœur, surtout pour la structure du récit, pour l'innocence perdue, pour la naïveté. C'est un grand roman, lu surtout par des adolescents, mais qui en fait est un des grands romans américains du 20e siècle.
D'accord. Et donc, on imagine que le choix que vous avez fait d'avoir une narration toujours au jeu dans vos deux premiers romans, où c'est donc le protagoniste Raphaël Laliberté qui est celui qui raconte finalement l'histoire qui lui arrive, n'est pas évidemment sans lien avec La recherche du temps perdu, où on a exactement le même, je dirais, point de vue narratif, où c'est le protagoniste qui dit « je » du début jusqu'à la fin.
Oui, c'est vrai. Chez Proust, le « je » est beaucoup plus problématique que dans mes deux romans, puisqu'il questionne les fondements même du « moi hein. ». Je pense que ça a été fait. Ça sert à rien de repasser par là. Mais effectivement, c'est ça. Ça part du même procédé narratif, oui.
Très bien. Et puis maintenant, j'ai envie de vous poser la question, il nous reste à peine 15 secondes. S'il y a un auteur qui vous a marqué, mais dont on ne retrouve pas nécessairement l'influence dans votre écriture, ce serait lequel?
Ah oui, alors je dirais Kafka. Kafka parce que c'est une sorte de frère jumeau dans le temps, qui n'influence pas du tout ce que j'écris, mais dont je me sens très proche.
Très bien. Mais je vous remercie, Martin Robitaille.
C'est moi qui vous remercie.
Alors maintenant, pour nous mettre un petit peu le roman le plus récent de Martin Robitaille à l'esprit, la co-animatrice de l'émission, Camille Deslauriers, va nous en lire un extrait. Je vous rappelle que c'est un roman publié en 2012 aux éditions Druide qui s'intitule « En chemin, je t'ai perdu ».
Alors c'est le début du chapitre 4. Ma visite obligatoire chez le psychiatre assigné par l'État avait eu lieu à Aix-en-Provence en fin de matinée, un 21 décembre. J'avais quitté Fort-Calquier très tôt, alors que Kate et Jules dormaient encore. Une épaisse brume recouvrait toute la vallée. Je buvais mon café à même le thermos en inox, en tenant le volant d'une main. La boisson change tout de suite de goût dans ces machins. Un goût de grandes vacances, de camping, de pêche ou de corvées extérieures, c'est cela. Ce matin-là, ça ne goûtait rien. Absolument rien. J'avais beau prendre de petites gorgées, laisser le liquide très chaud entre ma langue et mon palais, puis aspirer un peu d'air comme on le fait avec un bon vin, ce truc demeurait insipide. C'était impossible. Je me suis demandé si mes projets d'écriture ne se résumaient pas, eux aussi, à ce constat, à cette absence de sensation, de goût, de vie.
Merci. Alors voilà une très belle invitation à la lecture lancée à nos auditeurs, que je remercie d'ailleurs de leur attention, et que j'invite à la prochaine émission sous l'influence des livres, qui sera diffusée le mois prochain à l'antenne de Radio Ville-Marie. Cette émission a été enregistrée à l'Université du Québec à Rimouski, animée par Claude Lacharité et Camille Deslauriers, et avec Jean-Luc Théberge à la technique. Merci, au revoir.